Bon, la consultation sur le projet de loi concernant les modalités d'application de la loi fédérale sur le cannabis au Québec, c'est terminé. Puis là, la ministre doit prendre position, donc le gouvernement aussi.
Moi, je me demandais, parce qu'il y a beaucoup, il y a de nombreuses questions, puis on va les détailler un peu. Mais dans le fond, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le problème semble bien être comment on va contrôler l'utilisation, l'usage du cannabis. Et on voit, puis on en a parlé l'autre fois, il y a des situations où ça peut devenir absurde. Mais dans le cas de la santé mentale, la proposition de la personne que tu as interviewée...
Docteur Gartois,
ça me semble assez intelligent, c'est-à-dire le taux de THC maintenant, puis on le sait, ça n'a rien à voir avec le pot qu'on a déjà fumé quand on avait 25 ans. Ça fait longtemps de ça, là. Ça fait de très nombreuses dizaines d'années. Donc, c'est autre chose. Et oui, si le taux de THC a un effet dangereux sur l'esprit, les cerveaux des gens qui ne sont pas encore arrivés à maturité, puis on situe ça au-delà de 18 ans, entre 18 et 21 ans, qu'on puisse contrôler...
Même 25, je veux dire.
Même 25, oui. Qu'on puisse contrôler le taux de THC, ça a du sens. Sauf que tout ça a du sens, mais dans l'application, c'est difficile de voir comment on va agir. Comment on va agir là-dessus, le taux de THC. Comment on va vraiment contrôler le fait que tu ne consommeras pas dans les milieux de travail alors que c'est légal, que tu consommeras pas non plus quand tu étudies, que tu consommeras pas au volant, et dans le cas de plusieurs municipalités, tu n'auras même pas le droit de consommer dans des lieux publics ouverts. Moi, je trouve que tout le problème actuellement, c'est celui-là. Comment on va apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là?
Ouais, mais moi, je vois un autre problème, c'est-à-dire que là, la consultation fournit au gouvernement une multitude de suggestions là, de ce qu'il pourrait faire.
De paramètres, groupes d'intérêt.
Dans les faits, il a été soulevé là, dans ces consultations-là des dizaines et des dizaines de questions par toutes sortes de spécialistes, chacun dans leur domaine. Là, on a eu les pharmaciens, on a eu les gens des cégeps, là, toutes sortes de domaines. À mon avis, même avec toute sa bonne foi, puis ça, la ministre ne répondra pas à la moitié de ces questions-là. Il va rester... Le jour de la légalisation, il va rester un méchant paquet de questions en suspens ou en plan où on va découvrir les réponses là, dans l'usage, là, dans l'exercice de ça, on va découvrir les réponses. Moi, je reste... Donc, c'est un peu comme la consultation qui avait été faite à Ottawa. Là. Au lendemain d'une consultation, je reste avec pas mal plus de questions que de réponses. Puis l'échéancier, lui, il ne change pas. Il faut que ça se fait. Là, c'est là.
Il y a des questions qui nous éclairent. Par exemple, cette question-là du taux de THC.
Oui, ça nous éclaire à moitié. Est-ce que c'est applicable? Parce que c'est quand même complexe. Commencer à contrôler les taux de THC en fonction de l'âge.
Mais en tout cas, ce qu'elle dit...
Je ne pense pas que ça soit plus compliqué que l'alcool, dans le sens que si c'est vendu par l'État dans un réseau, les produits vont être identifiés, le taux de THC va être identifié. Tu fais une section qui n'est pas accessible, qui va être accessible seulement aux adultes.
Mais semble que ça... 25 ans et plus, mettons.
Mettons, 20 ans.
21 ans et plus.
Tu prouves ton âge, en quelque sorte, pour avoir accès
à ces produits. C'est comme au dépanneur. Si tu veux acheter de la bière, là, théoriquement...
Il me semble que si tu fais ça, là, les jeunes de 19 ans, là, la seule chose qui va les intéresser, c'est d'acheter dans l'autre section. Là. Ça va avoir l'effet exactement inverse.
Peut-être. Puis le marché noir, d'après ce qu'on nous dit, c'est que le taux de THC est moins élevé que ce qu'on voit du côté du marché légal.
Donc, tu vas avoir un marché noir des produits légaux. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont aller acheter, qui ont l'âge légal, puis qui vont leur revendre aux plus jeunes. C'est l'application. Mais au moins, puis ce que je trouvais
puis
intéressant...
L'autre bataille, j'ai hâte de voir, là, c'est la production à domicile. Québec dit non, mais le fédéral dit oui.
Mais ça, c'est des affaires qui vont finir devant les tribunaux. Là. Les gens vont réclamer leurs droits.
Ils
vont dire, moi, je suis dans ma maison, dans un pays qui s'appelle le Canada, où tu as le droit de produire à domicile. Fait que ma province n'a pas d'affaires à m'empêcher.
Puis l'interdiction de consommer de la marijuana dans un appartement, là, qu'est-ce que tu fais avec ça?
Moi, c'est ça, je trouve qu'il faut qu'à un moment donné, tu décides que...
Là, tu ne peux pas l'inclure parce que c'est illégal.
Mais chez soi, ça n'a pas de bon sens que tu ne puisses pas faire quelque chose de légal chez soi.
T'as 60% des appartements où dans le bail, là, c'est interdit de fumer présentement.
Ouais.
La cigarette. Parce qu'ils veulent pas que ça sente la cigarette, ils veulent pas importuner les autres locataires, ils veulent pas que la fumée de cigarette rentre dans le système de ventilation commun qui la fait circuler dans le bloc. Mais moi, je pense que pour la marijuana, là, ce 60%-là va monter à 80%. Fait que dans les logements, tu vas avoir deux problèmes. Il y a bien des logements où les gens vont être frustrés parce qu'ils vont vouloir fumer de la marijuana, puis ça va être interdit. L'autre affaire, c'est que si tu concentres dans tous les mêmes, tous les fumeurs de marijuana se concentrent dans le même 20 % des logements.
Enfin, un building...
un immeuble fumant.
Tu vas le regarder de l'extérieur, ça va être mauve, là.
Mais aussi, l'autre affaire que je trouve bizarre, là, chacune des villes réclame à la fois son autonomie puis une part des profits pour gérer ça, mais c'est comme un, ça a comme pas de bon sens. Tu vas changer tu vas traverser une rue, tu vas changer de municipalité, puis le règlement va changer. Alors, tu vas pouvoir fumer au coin de, je sais pas moi, de telle rue d'un parc, et puis si tu t'en vas de l'autre côté du parc, si c'est dans l'autre municipalité, tu peux fumer. Il me semble que ça aussi, c'est ingérable. Il faudrait qu'il y ait des lois qui s'appliquent. Puis si on légalise, il faut quand même que les gens puissent en faire usage quelque part. Alors, dans des lieux publics ou sur les trottoirs, dans des lieux ouverts, il me semble que là, on devrait permettre sur tout le territoire que ça soit accessible. Tu sais, il y a des choses... En tout cas, ça va être... C'est un méchant casse-tête, finalement.
Ouais. Mais là, moi, je peux faire une parenthèse quand même pour parler de la de ce qu'on a appris hier. Moi, je peux pas croire que le programme... je fais un petit brin d'histoire. Là, automne 2013, il y a des surplus à Hydro-Québec. C'est le gouvernement de Mme Marois qui est en place et ils font une espèce de directive, un arrêté ministériel, un décret ministériel demandant à la Régie de l'énergie et à Hydro de rendre disponible un meilleur tarif de l'électricité pour les serres. Parce que c'est un problème, puis moi je trouve qu'il y aurait même dû être plus agressif à l'époque, on aurait dû en faire encore plus parce que c'est pas raisonnable.
Mais quand on voit les prix de qu'on paie pour des légumes l'hiver,
quand on importe tout, là, on en fait un petit peu de concombre, des fraises, on a un producteur de fraises dans tout le Québec, 95% des fraises qu'on mange sont importées, on est capable, on a la technologie, on est capable d'en produire, on a l'électricité. Tout ça pour dire que quand j'ai appris hier que les producteurs de potes vont... Au nom de ce que ça a été fait pour la souveraineté alimentaire, pour produire plus nous-mêmes nos fruits ou nos légumes. Les producteurs de potes là, qui entrent dans une industrie, une des plus payantes qu'on ait vues dans l'histoire économique récente du Québec, du Canada, ça va être le Klondike. Puis les producteurs là, qui vont faire une production assez simple, c'est facile de produire du pot. Tout ce que ça te prend, c'est un permis gouvernemental. Donc là, c'est plein de libéraux qui se sont lancés dans la production du pot, qui sont confiants d'obtenir du gouvernement les permis. Puis une fois que le gouvernement t'a donné ton permis, là, tu plantes ça, puis ça fait de la feuille, puis ça fait de la verdure, puis envoie mon chum, l'argent rentre au poste. Puis là, ben ces gens-là vont profiter des tarifs réduits d'Hydro. Je peux pas croire, là. Je ne peux pas croire.
En tant qu'ancien propriétaire de serres où on réclamait à corps et à cri qui est justement du soutien, parce qu'on pourrait...
Mais depuis 2013, il y a un petit tarif... tarif préférentiel, c'est avantageux un peu plus. Ça, tu l'as pas connu à ton époque, là, tu l'avais pas.
À mon époque, il y avait strictement rien. Puis un peu d'autonomie, tu sais, ça aiderait à ce qu'il y ait une certaine autonomie dans certains types de production agricole. C'est inimaginable qu'on offre ça. Ça met en relief l'autre aspect que je trouve très troublant. C'est que tout le monde se lance là-dedans comme dans le pactole. Puis là, tu dis, il va y avoir des profits gigantesques générés à partir de...
Par exemple, par rapport aux tomates, par rapport aux concombres, à d'autres productions en serre, là, je vais me permettre de faire un jugement de valeur un peu plus noble, là, ça va être 10 à 20 fois plus payant. Là. Quelque chose de même, là.
Mais on a vu l'autre fois le propriétaire d'une serre qui, lui, a changé de vocation.
Ben qu'est-ce que tu fais si t'es propriétaire de serre? Tu cherches drôlement à avoir le permis de faire du pot. Fait que, oublie ça, l'autonomie agricole.
On est une société où, si t'écoutes la radio, la TV, ils disent tous de manger des légumes, mais tu subventionnes tout le monde pour transformer.
On va s'arrêter pour la pause pendant que vous prenez votre souffle. Et au retour, on va parler... De Justin Trudeau, qui n'a pas l'air pressé de récupérer des millions, lui. Pas d'urgence.
Non. Ouais,
Apple, qui retourne quand même 38 milliards au gouvernement parce qu'il a besoin de quelques liquidités. 8h41, les ponts de la Rive-Sud.